Voilà, bonjour bien-aimé. On va prier tout de suite, juste présenter brièvement notre frère pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il est là depuis quelques mois avec son épouse Ornella et leurs enfants. Il est étudiant à l'Institut public de Nogent. Il est en deuxième année et il fait son stage hebdomadaire ici avec nous à l'église. Et nous l'accompagnons en tant que conseil dans cette phase pratique de sa formation à l'Institut public. Et donc, c'est lui qui a l'honneur aujourd'hui de parler de la part de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour tous ces bien-aimés présents, tes enfants, tes fils et tes filles, à qui tu as donné cette belle inspiration de se lever ce matin et de venir dans ta maison. Ta maison, au-delà du lieu, c'est le rassemblement de tes enfants. Béni sois-tu, parce que tu as quelque chose pour nous. Et c'est notre frère, ton fils, ton serviteur que tu as choisi, avec ses mots à lui, mais de parler de ta part pour nous. Alors, Saint-Esprit, dispose nos cœurs, que chacun puisse être attentif pour recevoir ce matin la part de la parole qui nous est destinée. Que ton onction soit sur ton serviteur. Parle, Seigneur. Car tu utilises des hommes et des femmes pour nous parler. Gloire, honneur et puissance à celui dont la parole est éternelle. Nous te bénissons. Parle, Seigneur, au travers de ton Fils, nous écoutons en Jésus-Christ. Amen.
Bonjour à tous. Je rends grâce au Seigneur et le pasteur Serge de me permettre et de me donner cette occasion de pouvoir parler ce matin devant vous de la part du Seigneur. Mais il y a quelque chose que je vais faire juste un instant. Et ce qui est très important, c'est que j'ai omis de prendre mon épée. Je me prêche moi-même, au passage. Bien, très bien. Alors, j'ai remarqué quelque chose cette semaine, c'est qu'il se passe un événement aujourd'hui, ce dimanche. Et cet événement ne se passe pas dans notre ville, ni dans notre quartier, mais dans notre église à Créteil. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est cet événement qui se passe ce dimanche ? Allez-y, j'entends pas. J'entends, c'est timide. Il y a un AG aujourd'hui. Il y a un AG aujourd'hui, l'AG de l'Église, l'Assemblée Générale. Mais la chose, c'est que je voulais vous rapprocher de ce que je voulais que vous puissiez me dire. C'est qu'on a l'AG, mais avant cela, on a quelque chose qui se passe. C'est qu'on mange, n'est-ce pas? Oui, on mange. Ben, si on ne mange pas, quand l'AG va commencer, on va commencer à voir le pasteur en double. Ce sera compliqué. C'est qu'on va prendre un temps pour manger quand même, avec le repas tiré des sacs. C'est un temps de communion que le Seigneur nous permet d'avoir en tant qu'Église. Et pourquoi je vous parle de cela ce matin? C'est parce que le texte que nous allons voir, c'est un texte où il y a aussi un repas. Un texte où il y a des convives, il y a des invités. Et aussi à une personne qui sert à table. Ça veut dire que c'est un texte qui n'est pas très loin de ce que nous allons vivre aujourd'hui. Et sans tarder, nous allons le prendre. C'est dans Jean 12. Jean 12, versets 1 à 8. C'est un petit texte, pas très long, mais si riche à nous apprendre de ce qui est Dieu et de notre démarche et notre marche avec lui. Jean 12, versets 1 à 8. Il nous a dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où vivait Lazare, qu'il avait relevé des morts, d'entre les morts. Là, on lui offrit un repas servi par Marthe. Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de parfum très cher, fait de nard pur, et le répandit sur les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'un de ses disciples, des disciples de Jésus, Judas l'Iscariote, celui qui allait le livrer, demanda, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce que l'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la tranquille. » Elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Alors, j'aurais voulu qu'on s'arrête là, mais il y aura un petit texte qu'on prendra pour compléter ce qui viendra appuyer ce passage et qui se trouve dans Luc 10, versets 38 à 42. Luc 10, versets 38 à 42. Vous y êtes? Luc 10, versets 38 à 42. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, ils entrèrent dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure, qui ne lui sera pas enlevée. » Amen. Alors nous allons planter le décor. On se trouve ici à quelques jours après la résurrection de Lazare, le frère de Marie et Marthe. Et on voit cela dans les chapitres précédents, le chapitre 11. Et le temps aussi où Jésus devait aller à Jérusalem pour célébrer la Pâque. C'est à ce moment-là aussi que Jésus va accomplir cette œuvre rédemptrice que le Père lui a confiée, à savoir mourir et se donner comme la rançon pour plusieurs. Non seulement pour ses contemporains de l'époque, mais pour toi et moi qui sommes assis aujourd'hui dans cette église. Par l'Écriture nous dit que le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Il sait donc que son ministère public va bientôt prendre fin. Il a voulu prendre un temps avec ceux qu'il a accompagnés et qui lui ont été proches. Il se trouve à Béthanie. Béthanie, c'est pas très loin de Jérusalem. Si on peut dire, c'est à trois stations de métro de Jérusalem. Non, c'est à 3 kilomètres environ, une demi-heure de marche. À l'époque, ça se faisait à pied. Il nous a dit que Lazare est à table. Il est appelé le mort. Il a été ressuscité par Jésus. Il est fait mention de lui à deux reprises dans ce récit. Alors Lazare, qui signifie Dieu secouru, pour les mamans qui veulent avoir un petit bout de chou, voici un nom qui... Marthe aussi est présente, elle est au service. Comme à son habitude, dans le souci de l'accueil, comme dans le passage que nous avons lu dans Luc 10, il y a Marie aussi qui a pris un parfum de grand prix et le verse sur la tête et les pieds de Jésus, les essuie avec les cheveux. Il y a aussi présent les disciples dans cette pièce, dans un certain Judas dont on reviendra et que malheureusement, il s'est fait remarquer, mais pas dans le bon sens. Nous allons voir trois aspects de l'adoration qui ressort dans l'attitude de trois personnes ici présentes. Lazare, Marthe et Marie. Que ce soit l'adoration dans la communion, en étant dans la présence de Dieu, que ce soit dans l'adoration aussi, dans le service, quand on sert le Seigneur, c'est aussi une forme d'adoration, d'honneur, de reconnaissance. Et dans l'adoration, dans les gestes, dans l'attitude de Marie qui déverse ce parfum aux pieds de Jésus. La communion donc, nous allons parler de Lazare qui est l'ami de Jésus, celui dont Jésus a ressuscité des morts. Cela, comme je le dis, est au chapitre précédent. Lazare nous le dit qu'il était mort et qu'on l'a mis dans un tombeau. Et c'est vrai qu'au niveau des tombeaux, c'était seulement, on pouvait dire, les personnes riches qui pouvaient avoir un accès, on va dire, et s'en procurer. Il nous a dit que Lazare était mort, ça fait déjà 4 jours, et il sentait déjà. Mais lorsque Jésus s'est approché de lui, il savait ce qu'il allait faire. Et non seulement il savait ce qu'il allait faire, mais il savait qui il est. Et au fur et à mesure, que ce soit avec ses amis, ses disciples qui l'accompagnaient, il découvrait qui était ce Jésus. Qu'il n'était pas seulement un ami, mais qu'il était le Fils de Dieu. Celui qui devait venir, celui qu'Israël attendait. Et devant ce tombeau, Jésus a parlé à Lazare. Et dans sa puissance, de son toute autorité, Lazare n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Jésus a démontré par cela que, quelles que soient les malédictions, que soit ce qui s'est passé dans la vie de l'homme, qu'il puisse chuter et en arriver jusqu'à la mort, Jésus est Dieu et il est au-dessus de tout cela. Il le prouve là, non seulement en ressuscitant Lazare, mais le prouvera après parce qu'il est ressuscité lui-même. Et en cela, par sa résurrection, nous avons cette assurance qu'il nous ressuscitera le dernier jour. Il est le ressuscité. Et c'est formidable, de là où est le Seigneur, il nous prend. De là où on est, il nous prend aussi. Soit dans notre marche, il nous fait de nous des disciples. Comme là, Lazare était son ami, et il fait aussi de nous ses amis. Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Aujourd'hui, on est frère, aujourd'hui on est sœur, et on est aussi enfant de Dieu, co-héritier. C'est notre statut aujourd'hui. Et quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, que ce soit les situations qui peuvent nous fatiguer, les situations qui peuvent être terribles, même comme on voit avec Lazare, jusqu'à la mort même, comme Lazare ici, il faut savoir, et Paul le dit si bien dans Romains 8, « Je sais que rien ni personne ne peut me éloigner de l'amour de Dieu. » Et nous devons apprendre à nous reposer sur cette vérité en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant qu'enfant de Dieu, comme une brebis qui se repose dans de verts pâturages, que le Seigneur a préparé d'avance pour elle. Et notre statut d'enfant de Dieu est un vert pâturage. Le savez-vous? Pour aller plus loin, comme ressuscité, Lazare aurait pu être la vedette de cet instant. Mais non, car toute la gloire ne devait revenir que au Seigneur. Quelle adoration dans l'intimité lorsqu'on réalise la grandeur de ce Dieu. Nous avons aussi Marthe, l'expression du service. Elle sera table, mais cette fois, elle ne se plaint plus comme auparavant que lorsqu'elle demandait à Marie de venir l'aider dans la cuisine. Nous l'avons lu dans Luc 10. Elle est à sa place en ce moment, dans son service, et elle laisse les autres personnes à la leur. Elle aussi a été témoin de la résurrection de Lazare. Mais le Seigneur a dû, on va dire, cheminer avec elle afin de faire grandir sa foi et pour découvrir réellement la grandeur de son Seigneur, que Jésus est la résurrection et la vie. On peut remarquer avec le Seigneur, même venir, on peut marcher avec le Seigneur et même venir tous les jours ici dans cette église. La porte ne sera jamais fermée. Et même encore servir sans vraiment connaître le Seigneur. Il ne faut pas dire que je sers le Seigneur et voilà, c'est bon, c'est tout. Ou je peux dire, ben voilà, je suis sur la bonne voie. Et pour cela, j'ai deux frères, un grand frère juste devant moi et mon petit frère. Et l'un était à la louange et l'autre était à la batterie. Et la chose, c'est que aujourd'hui, ils ont, on va dire que c'est un temps assez pas évident pour eux, mais se retrouvent loin du Seigneur. Et moi, qui est devant vous aujourd'hui, j'étais, on va dire, le petit brigand de la famille. Je fuyais le matin, le dimanche matin, pour ne pas aller à l'église. Le dimanche matin, moi, c'est, voilà, pour ne pas aller à l'église, ben, je partais en vélo, j'allais faire du foot. Et voilà, aujourd'hui, je suis devant vous. Et voilà, je continue quand même à prier pour mes deux frères, afin que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Et puis, voilà, continuer à parler et à continuer à persévérer dans le Seigneur. Parce que cela aussi est aussi un témoignage, afin qu'ils puissent voir qu'il y a de bonnes choses dans le Seigneur et que le monde n'a rien à offrir. Ici, Marthe remplit son rôle, comme à d'autres occasions, mais dans l'humilité. Et l'humilité est indispensable, bien-aimé, si on veut servir le Seigneur et les autres en leur accordant plus d'importance qu'à nous-mêmes, comme le Seigneur l'a fait aux disciples par la scène du lavement des pieds. Le Seigneur s'est revêtu d'humilité pour servir lui qui est le roi. Ne devons-nous donc pas faire de même, nous qui sommes disciples, nous qui marchons à sa suite en tant qu'enfants de Dieu? Mais j'aimerais souligner quelque chose au passage, si vous me permettez. C'est que j'ai remarqué que dans ce repas-là, le repas se passait chez un certain Simon, appelé le lépreux. C'est ce que nous relèvent Matthieu et Marc dans leur évangile. Un publicain guéri par le Seigneur et qui est devenu un de ses disciples. Pourquoi je parle brièvement de lui? Parce que j'ai remarqué qu'il servait aussi le Seigneur. Comme Marthe. Marthe, il servait à table. Mais ici, Simon, il sert, j'ai remarqué, avec ses biens. Simon, il sert à sa façon. Parce que le repas se passe chez lui. Et en étant dans cette reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui, il met à disposition ses biens, sa maison. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons aussi en tenir compte. Son bien pour honorer le Seigneur. Oui, on peut aussi servir de cette façon, car tous les disciples du Seigneur ne se déplaçaient pas avec lui. Et, il n'avait que autour de lui les 12, mais partout il allait, faisait aussi des disciples. Et vu que les gens n'allaient pas avec lui, quand il passait dans les villes ou dans les villages, ben, il pouvait se loger chez les gens, il pouvait aussi manger aussi chez les gens. On les recevait. Et aussi, on voit qu'ils avaient une bourse, que les gens aussi participaient à ce ministère. Parce que le Seigneur n'avait pas non plus le temps, on va dire, pour travailler, pour voilà, et avoir aussi la maison et ne pas bouger, parce qu'il devait aller de lieu en lieu. La Bible nous dit, et en faisant du bien et en guérissant les malades. Dans l'évangile de Matthieu et Marc, nous avons aussi une personne que nous avons appelée Marie. Marie est appelée la femme ou une femme pécheresse. Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme. Dans cet évangile-là, là où Matthieu met en avant Jésus comme roi, en décrivant la même scène comme étant la Marie qui verse ce parfum sur la tête de Jésus, Tandis qu'ici, Jean veut révéler Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. C'est le but de son évangile. Et cela, on le lit avant la fin, la toute fin de son évangile au chapitre 20. Non seulement Marie oint la tête, mais aussi les pieds de Jésus. C'était un signe d'honneur à l'époque, lorsqu'on recevait un invité de prestige. Soit on lui donnait de l'eau pour se laver les pieds, ou soit c'était les esclaves qui le faisaient et qui essuyaient les pieds des invités. Mais c'est Marie qui prend sa place, qui prend la place de la servante ici, de l'esclave, pour oindre avec un parfum, non seulement avec un parfum, mais pas avec de l'eau, les pieds de Jésus. Elle s'abaisse pour les essuyer et le comble dans tout cela, c'est qu'elle les essuie avec ses cheveux. Ce qui n'était pas commun à l'époque. Car en Palestine, toutes les femmes qui se respectent ne se présente pas en public avec les cheveux non attachés. Mais son affection pour Jésus est plus forte que les règles établies. Assise aux pieds de Jésus pour l'écouter comme un disciple, alors que ce n'était même pas réservé aux femmes. C'était les hommes. Et quand les hommes finissaient avec leur maître, en allant à la maison, ils pouvaient enseigner à leurs femmes ce qu'ils ont appris. Ici, Marie ne regarde pas non plus aux hommes. Elle se sert de sa longue chevelure pour honorer son maître. Les cheveux symbolisaient en Palestine une gloire pour la femme. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au verset 11. Au chapitre 11, pardon, verset 15. Elle ne tient plus compte de sa propre personne, mais s'efface pour son Seigneur. Jésus étant au centre. Ça, c'est l'adoration qu'exprime un cœur rempli d'amour pour son Seigneur. Et des trois personnes nommées Lazare, Marthe et Marie, Marie est mise en avant par cet acte extraordinaire. Elle avait mis soigneusement à côté le parfum qu'elle offrit maintenant à Jésus. Ce n'était donc pas quelque chose de méprisable. Et cela est important aussi, je pense, pour nous, Église, que ce soit dans notre temps, nos biens, ou même notre argent. Dans ce passage, l'acte de Marie est un bel exemple pour nous, croyants, qui avons réalisé qui est Jésus pour nous et l'œuvre qu'il a accomplie dans notre vie. Nous voyons que pour elle, rien n'est trop coûteux si elle peut lui donner à Jésus. Alors ce parfum se répand dans tous les lieux et cela attire des ennuis. Eh oui, critiquer, car malheureusement, parce que, comme souvent, les critiques ne sont jamais très loin. Ce n'est pas toujours négatif, les critiques. Elle peut être positive et même enrichissante, si elle a pour but d'apporter son aide à une personne dans une situation. Mais elle peut être négative quand c'est avec une mauvaise intention, comme dans ce cas avec Judas. Judas condamne l'acte de Marie. Jean nous révèle au verset 5 et 6, que Judas tenait la bourse et qu'il volait ce que l'on y mettait dedans. En plus, il est doué quand même, il est à l'aise pour donner le prix du parfum. Il nous dit qu'il était de 300 pièces d'argent. Pourquoi ? Pour les donner aux pauvres. En vérité, il ne se souciait pas des pauvres. Il avait d'autres projets, je pense, pour ses sous. Mais Judas se trompait complètement dans son estimation. C'était son estimation à lui, mais pour le Seigneur, ce parfum avait une valeur inestimable, car cela était pour sa sépulture. Les aromates que les hommes, que les autres femmes avaient emmenés pour embaumer le corps de Jésus, après sa crucifixion, n'ont pas été utiles. Le Seigneur était déjà ressuscité quand elles arrivèrent au tombeau. Alors j'ai essayé de résoudre cette énigme. Une énigme que j'ai essayé de voir en préparant ce message. Je me suis posé une question. Pourquoi Jésus, connaissant toutes choses, sachant que c'était une occasion de chute pour Judas, lui a-t-il finalement laissé garder la bourse commune? Et pourquoi, pour aller plus loin, l'a-t-il appelé comme disciple? C'est comme si on disait à un enfant, ne touche pas à ce bonbon. C'est comme si on disait à un enfant de ne pas toucher à ce bonbon et qu'on lui laisse sous les yeux. C'est sûr que là, ça va être compliqué. On a donné quelque chose à Judas et il devait le porter en tant que responsable. C'était une responsabilité pour lui. Et à cela, j'aimerais partager quelque chose avec vous. C'est que il m'est arrivé un jour où j'étais dans la chambre et on avait remis, je pense que c'était une clémentine ou un orange, on avait remis à ma fille de 4 ans, Léana, et qu'elle devait me rapporter. Alors, entre le salon et ma chambre, il y a un couloir. Et vous savez, en arrivant dans la chambre, la clémentine a disparu. La clémentine a disparu. Mais vu qu'on est parents et qu'on comprend certaines actions, alors voilà, on a voulu un peu la... Voilà. Elle a dit, elle est partie aux toilettes. Elle est partie aux toilettes et s'est tombée dedans. Alors on s'est regardé, ma femme et moi, et on a rigolé. Mais pour vous dire que vraiment, tout est aussi une occasion pour l'enfant aussi de se retrouver dans cette situation. Personne n'est parfait, même à leur petit âge. L'argent n'est pas mauvais en soi, en tant que monnaie. Parce que depuis longtemps, elle a été nécessaire au fonctionnement de l'économie. Un instrument utile pour mesurer la valeur des choses. Il a permis de passer du troc à une économie monétisée. Dans notre récit, le Seigneur confie à Judas cette bourse. On ne sait pas depuis combien de temps Judas a été exposé à l'argent. Vous savez, la Bible nous dit que l'on devient esclave de ce qui a triomphé de nous. Mais cela nous questionne sur notre rapport à l'argent. Quelle place l'argent occupe-t-il dans ma vie? Ou comment je dois gérer mon argent pour que cela puisse glorifier le Seigneur? Parce que l'argent, comme d'autres choses, peut révéler l'état de notre vie spirituelle. Et pour aller plus loin, notre rapport au monde et avec Dieu. Quoi qu'il en soit, le Seigneur nous rejoint dans ce dont nous luttons et nous donne l'opportunité de changer et de le suivre. Son esprit est là et l'Église aussi est présente pour nous accompagner dans ces moments pas évidents. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Judas a eu l'opportunité, en passant tout ce temps au plus près du Seigneur, mais ne l'a pas saisi. Il a choisi une autre voie, celle de l'argent, celle de notre Dieu, allant jusqu'à vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Car l'argent, nous dit Paul, dans sa première lettre à Timothée, est la racine de tous les malheurs. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi. Et ils se sont affligés bien des tourments. Alors, ce matin, quelle attitude saisissante nous offre ce récit, n'est-ce pas? Et donc, nous, en tant que croyants, nous devons imiter, assis au pied du Maître, écoutant sa parole pour apprendre à le connaître, afin que son amour, comme un parfum, puisse se répandre dans notre vie. Et pour la suite aussi, autour de nous, pour que ça puisse se répandre pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cela doit nous interpeller, je pense, et surtout dans ces derniers temps, je crois, car le Seigneur désire que nous soyons debout pour lui rendre témoignage en présence de ce monde qui ne trouve pas en lui aucune beauté. Bientôt, nous n'en trouverons plus l'occasion. Nous devons donc la saisir comme Marie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.